Encore une belle demi-heure à passer avec vous, amateurs de sport. Prudence sur les routes. On sait qu'il y a eu un carambolage important sur la 20 à la hauteur de Saint-Hyacinthe. Alors, patience tout le monde. La route n'est pas prête d'être réouverte dans ce cas-là. On va enchaîner maintenant. Dans quelques instants, Stéphane Leroux va venir nous parler de sa liste suite à un texte qu'il a déposé sur le RDS.ca qui nous a proposé des meilleurs joueurs qui n'évoluent pas dans la LNH. Ça concerne quelques espoirs du Canadien. On va parler de Kotkaniemi, dont il a vu la performance de mercredi à Laval. Mais d'abord, place à la chronique, je sais pas c'est quel tome ou quel épisode de la même chronique, mais est-ce que Nacho Cathy a joué son dernier match avec l'Impact de Montréal? Les rumeurs, ça ne cesse jamais. On retrouve Jérémy Filosa qui va nous donner l'heure juste. Bonsoir Jérémy.
Salut Mario.
En sais-tu davantage? Même aujourd'hui, on pensait que c'était fini, parti là, apparemment qu'il est encore avec l'Impact. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Écoute, bon, dans les dernières minutes, là, il y a des informations qui sont sorties d'Argentine parce que c'est tout de ce côté-là que l'information sort, là, de toute façon, qu'un des deux joueurs, un des deux jeunes joueurs qu'aurait obtenu l'Impact de Montréal dans cette transaction avec l'équipe de San Lorenzo en Argentine, plus précisément, on parle ici de Nicolas Fernandez, aurait refusé, lui, la transaction, aurait refusé de se déplacer au Canada, de déménager dans la MLS. Pour ceux qui suivent pas trop le soccer, dans ce sport-là, mis à part dans la MLS, partout sur la planète, lorsqu'on procède à une transaction, ben on doit avoir le club qui envoie, le club qui reçoit et aussi le joueur, tous d'accord. Mais là, clairement, on n'en avait pas parlé aux joueurs parce qu'il y a un des deux joueurs qui, lui, ne semble pas intéressé du tout à s'en venir ici. Et ben là, ça cause un sérieux problème dans cette transaction parce que San Lorenzo et l'Impact de Montréal s'étaient donné jusqu'à ce soir dans le but d'en arriver à une entente parce que, ben pour l'Impact, la Ligue des champions commence dans moins de deux semaines, donc on doit savoir sur quel pied danser. Et bon, je sais pas si on va étirer les conversations parce que la fenêtre de transfert ferme officiellement en Argentine le 19. Donc, est-ce qu'on va étirer ça au-delà de ce soir? Je le sais pas. Mais au moment où on se parle, il semble y avoir du sable dans l'engrenage.
Et est-ce que Nacho Piatti s'entraîne comme un gars qui va jouer des matchs bientôt pour l'Impact avec le début du calendrier de la MLS et la CONCACAF? Comment Thierry Henry, comme entraîneur, compose avec toutes ces incertitudes?
Ah, écoute, c'est sûr que Thierry Henry, il est pas de bonne humeur, là. Je veux dire, moi, je me le suis fait confirmer. Et en plus, publiquement, Thierry Henry, à deux reprises, lorsqu'il se fait poser la question la semaine dernière, quel est le plan B si Nacho s'en va? Il dit, il y a pas de plan B. S'il s'en va, ben, il va falloir qu'on s'ajuste. Et cette semaine, il n'a pas disputé le match contre Philadelphie. Et Dave Lévesque, du Journal de Montréal, lui pose la question, pourquoi n'a-t-il pas joué? Et il répond, allez demander aux joueurs. Moi, j'ai une Ligue des champions à préparer. Donc, c'est sûr que lui, il n'est pas de bonne humeur présentement à la perspective de perdre son meilleur joueur pour les débuts de la Ligue des champions. C'est un scénario catastrophique pour un entraîneur-chef, ça c'est certain. Je pense que du côté des entraîneurs, on aurait préféré que ça se règle soit l'année passée, ou à la fin de la dernière saison, ou cet été, mais pas là, pas à quelques jours du début de la plus grosse compétition en Amérique du Nord. Là.
Donc, si on était prêt à le libérer pour rien, ça ferait longtemps que ça serait chose faite, parce que est-ce que tu as encore un doute sur la volonté de Nacho Piatti de quitter Montréal puis d'aller jouer dans son coin?
Non, aucun doute. Je pense que c'est clair que lui veut quitter. Je pense que c'était sa volonté depuis l'année passée. Comme tu viens de le mentionner, on aurait pu le laisser partir pour rien et réinvestir les 3 millions qu'on lui aurait dû pour 2020 sur d'autres joueurs. Je pense que certains croient que c'était assez clair la volonté de Nacho Piatti. Ceci dit, s'il a été aussi clair avec le club qu'il a été avec nous dans les médias, je peux comprendre le club d'être un peu mêlé parce que avec nous, les médias, ses propos là, se sont promenés de gauche à droite. Il a été très difficile à suivre.
Bon, ben on verra la suite, mais ça demeure un point d'interrogation. Donc, vraisemblablement, on en aura d'autres chroniques intitulées « Est-ce que Nacho Piatti a joué son dernier match dans l'uniforme de l'Impact de Montréal? »
Écoute, j'espère que si ce soir, ça se conclut pas en une transaction et que c'était véridique, cette information comme quoi on s'était donné jusqu'à aujourd'hui, ben j'espère que demain, on va avoir un communiqué de la part de l'Impact de Montréal. Ce matin, justement, je parlais de Dave Lévesque tout à l'heure, qui est au camp d'entraînement. Il a tweeté que Olivier Renard a sorti Nacho Piatti de l'entraînement, lui qui s'entraînait avec les joueurs qui ne joueront pas.
Une courte conversation. Une courte. Exactement. Hein, ça peut être long, apparemment, selon Dave, j'ai vu ses tweets, là.
Quelques minutes seulement, et finalement, la discussion s'est arrêtée là, on s'est serré la main et ça s'est terminé. Mais écoute, Le match intra-équipe de samedi, il n'a joué qu'une seule demi. Le match de cette semaine contre Philadelphie, il n'a pas joué du tout et ça s'enligne pour qu'il ne joue pas encore une fois demain. Ça m'a pas l'air d'un gars qui s'entraîne pour débuter l'année, là.
Eh bien, c'est décevant et on verra la suite des choses, mais je me demande pourquoi, si on sait que c'est vraiment un cul-de-sac avec Nacho, pourquoi on l'a contraint de se présenter ici contre son gré. On se fie sur le fait qu'il va être professionnel en jouant sur le terrain, mais là, c'est parce que ça fait de l'ombrage, je trouve, à toute l'organisation. Au lieu de parler des matchs, on parle tout le temps d'un point d'incertitude. Déjà que l'an passé, on a parlé de lui comme joueur blessé plus souvent qu'autrement. En tout cas, j'ai hâte que ça soit réglé, hein.
J'ai bien, comme tout le monde. Écoute. On devrait être en train de parler de la Ligue des champions. C'est la compétition qui, on va se le dire, excite le plus les amateurs du soccer du Québec. On est à quelques semaines. On devrait être extrêmement fébrile pour le début de cette compétition et on ne parle que de Nacho, malheureusement.
Parlons de la convention collective dans la MLS acceptée par les joueurs. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de ces athlètes-là qui jouent au soccer professionnel en Amérique du Nord, Jérémy?
Premièrement, chapeau à l'association des joueurs et aux commissaires et les propriétaires d'en être arrivé à une entente de cette façon-là. On a vraiment négocié en bonne et due forme. Beaucoup de gains pour les joueurs, Mario. Premièrement, le salaire minimum de la Ligue va monter à au-delà de 100 000 $ d'ici la fin de cette convention. Ça, c'est extrêmement positif. Evan Bush disait cette semaine que lorsque lui a commencé en MLS, il y a 10 ans, le salaire était 12 500 $ Imagine. Donc, on a fait des pas de géant. Pour ce qui est aussi des joueurs autonomes, encore là, le jour et la nuit, jusqu'à l'année passée, il fallait avoir 8 années de service et 28 ans pour devenir joueur autonome. Ben là, c'est seulement 5 années de service et 24 ans. Donc, dès l'hiver prochain, on aura dans la MLS, comme dans toutes les autres ligues importantes d'Amérique du Nord, un vrai marché des joueurs autonomes où les joueurs vont pouvoir se déclarer libres et offrir leurs services à d'autres équipes de la MLS. Les salaires vont augmenter, le partage des revenus et aussi ben, les fameux vols nolisés qui seront maintenant obligatoires dès cette saison, au moins 8, et ça va augmenter à chaque année jusqu'à 16 d'ici la fin de la convention qui sera dans 5 ans. Ça, les joueurs vont être extrêmement soulagés de cela. Donc, une grande victoire pour les joueurs et chapeau aux propriétaires qui leur ont donné.
Quelle est la suite des choses sur le terrain pour l'Impact avec son camp qui se poursuit en Floride?
Donc, autre match préparatoire demain soir du côté d'Orlando. Et ensuite de ça, il y aura deux derniers matchs préparatoires du côté de St. Pete. C'est drôle, on parle beaucoup de St. Pete là avec les Rays de Tampa Bay. Mais l'Impact s'entraîne à quelques coins de rue seulement du Tropicana Field au Al Lang Stadium. Donc, il y aura deux matchs mercredi soir de la semaine prochaine et samedi soir. J'y serai d'ailleurs sur place, Arcadio Marcuzzi aussi, pour vous donner vraiment des comptes rendus en direct de Tampa Bay la semaine prochaine. Donc, un match demain soir et ensuite de ça, ben ça se poursuit du côté de Tampa avant le fameux voyage vers le Costa Rica.
Juste en terminant, toi qui es assez familier avec la Floride, je sais pas combien il y a de Québécois dans le secteur de Tampa Bay, mais j'ai l'impression que si jamais on devait avoir une équipe en garde partagée, qu'il y a peut-être bien des snowbirds là, qui peut-être songeraient à passer l'hiver dans cette partie-là de la Floride plutôt que là où ils sont généralement.
Écoute, dans ce bout-là, il n'y en a pas tant que ça.
Il
n'y
en a pas beaucoup, hein,
non? Non. Puis Saint-Pete, là, c'est cher. C'est dispendieux, ce coin de pays-là, pour aller même passer des vacances. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Impact, présentement, je serais pas surpris que, dès l'année prochaine, ils déménagent leur camp d'entraînement. Miami, dans son nouveau stade à Fort Lauderdale, veut organiser un mini-tournoi printanier dès l'année prochaine. Je sais pas s'ils vont avoir le temps de tout mettre ça en place, mais c'est pas impossible que, dès l'année prochaine, Mario, les camps d'entraînement de l'Impact déménagent à Fort Lauderdale, dans le cœur du petit Québec, de la Floride. Ce serait incroyable.
Jérémy, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. À bientôt.
Salut. Toi aussi, bye-bye.
Nous enchaînons dans quelques instants avec Stéphane Leroux, qui va nous parler, entre autres, de Cole Caulfield, d'Alex Romanoff, de Jesperi Kotkaniemi, comment il s'est comporté sur la glace de la Place Belle mercredi à Laval. À tout de suite, donc, avec Stéphane.